Bienvenue dans l'histoire du jeu vidéo. Au programme de l'actu, du fun, de l'histoire, mais surtout des moments époustouflants.
Bienvenue à toutes et à tous dans l'histoire du jeu vidéo, l'émission qui vous plonge au cœur des univers vidéoludiques les plus marquants, les plus inoubliables et parfois les plus effrayants. Aujourd'hui, on s'aventure dans les ténèbres. Préparez vos nerfs, vérifiez que vous avez bien refermé les portes derrière vous, car nous allons parler d'un jeu où la peur est votre seule compagne. Un jeu qui a transformé la terreur en expérience multijoueur, et où chaque partie est une course pour la survie. Dead by Daylight. Sorti en 2016, ce titre indépendant venu du Canada a su conquérir des millions de joueurs à travers le monde. Pourquoi ? Comment un jeu avec si peu de moyens au départ a-t-il su s'imposer comme une référence du genre horrifique ? Et surtout, pourquoi revient-on toujours dans la brume encore et encore ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout au long de cette émission spéciale consacrée à l'un des titres les plus angoissants et fascinants de ces dernières années. Dead by Daylight, c'est un jeu que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais à sa sortie, il a surpris tout le monde. Et son histoire commence dans un endroit plutôt inattendu, Montréal, au sein du studio Beavour Interactive. Nous sommes au début des années 2010, Beavour n'est pas un géant de l'industrie. Le studio travaille surtout sur des adaptations, des jeux mobiles ou son contrat. Mais en interne, une petite équipe nourrit une idée audacieuse, créer un jeu multijoueur asymétrique, dans lequel un joueur incarnerait un tueur et les autres les survivants. Le concept n'est pas nouveau, mais rarement bien exécuté. Et surtout, Beavour ne veut pas tomber dans le spectaculaire. Ce qu'il vise, c'est l'ambiance, la tension, la peur pure. Inspiré par les classiques du cinéma d'horreur, Halloween, Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, les développeurs imaginent un jeu sombre, brut, viscéral. Pas besoin de fusils ou de super pouvoirs, ici on court, on se cache, on survit. En 2016, le projet voit le jour avec le soutien de Starbreeze Studio. Le jeu sort le 14 juin sur Steam et c'est une claque. Certes, les graphismes sont modestes, les animations un peu raides, mais la formule fonctionne. Dead by Daylight séduit immédiatement les streamers, les vidéastes et les fans d'horreur. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est une expérience sociale. Rapidement, le jeu s'exporte sur PlayStation 4 et Xbox One, puis sur Switch en 2019. Le public est au rendez-vous et Beavour comprend très vite la clé, ce sera le contenu régulier. De nouveaux tueurs, de nouvelles cartes et surtout des licences de films cultes intégrées dans le jeu. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que Dead by Daylight a commencé petit, mais avec une grande idée. Et parfois, une idée bien exécutée vaut mieux qu'un budget énorme. On part avec la première pause musicale, Trapped in the Fog, de Michael April. Une ambiance lente, mystérieuse, presque organique. Attention, vous pourriez être surpris. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of shadows.
Hush now, dear children, it must be this children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadows.
Si Dead by Daylight est aussi marquant, ce n'est pas seulement grâce à son ambiance. C'est aussi à cause ou grâce à son gameplay. Un gameplay qui repose sur une mécanique simple, mais diaboliquement efficace. Un tueur, 4 survivants et une seule issue. Le principe est le suivant. Les survivants doivent réparer 5 générateurs pour ouvrir les portes de sortie et s'échapper. Pendant ce temps, le tueur, plus rapide, plus fort et doté de pouvoirs uniques, tente de les attraper un par un pour les sacrifier à une entité mystérieuse. Mais attention, Dead by Daylight ne se joue pas comme un jeu d'action classique. Ici, il n'y a ni arme à feu, ni combat équitable. Les survivants n'ont que leur ruse, leur environnement et un peu de chance pour survivre. Cela crée une tension constante, presque étouffante. On écoute le moindre bruit, on se cache dans des casiers, on jette un coup d'œil derrière soi à chaque instant, le cœur s'emballe et tout peut basculer en une seconde. Côté tueur, l'expérience est tout autre. On est le prédateur, on traque, on repère. Les traces, les cris de douleur, les oiseaux qui s'envolent, mais attention, jouer le tueur demande aussi de la stratégie. Faut-il camper un survivant accroché au crochet, ou repartir chasser les autres? Faut-il détruire un générateur à moitié réparé, ou tendre une embuscade près de la sortie? Cette asymétrie de gameplay est l'essence même du jeu. Elle crée deux expériences totalement différentes, mais complémentaires. Et c'est ce qui rend chaque partie unique. On ne sait jamais ce qui va se passer, car les joueurs eux-mêmes sont les scénaristes de chaque session. Un autre point crucial, la progression. En jouant, on gagne de l'expérience et des points de sang pour débloquer des compétences passives appelées atouts. Certains permettent de courir plus vite, d'autres de détecter le tueur ou d'aider ses coéquipiers plus facilement. Chaque personnage, survivant comme tueur, a ses propres compétences et son style. Mais attention, Dead by Daylight n'est pas un jeu qui tient la main. Les débuts peuvent être difficiles, mourir est fréquent, réparer un générateur avec un tueur aux trousses, c'est un stress constant et parfois ce sont vos propres coéquipiers qui vous condamnent sans le vouloir, en faisant du bruit ou en vous abandonnant au pire moment. Et pourtant, malgré les frustrations, on revient encore et encore, parce que Dead by Daylight réussit là où beaucoup échouent. Il crée une tension constante, mais surtout, il raconte une histoire différente à chaque partie. On continue avec Michel April, et le titre c'est Darkness. Une ambiance froide et lancinante, parfaite pour accompagner le souffle court d'un survivant en fuite. S'il y a bien un aspect qui fait frissonner dans Dead by Daylight, c'est le choix des tueurs. Le joueur qui incarne l'antagoniste ne se contente pas d'être plus fort ou plus rapide, il incarne une terreur vivante, un monstre, une entité, avec une personnalité bien à lui. Et c'est là que le jeu prend toute sa dimension. Dès sa sortie, le jeu propose des tueurs originaux imaginés par Behavior. Le piégeur, inspiré de Jason Voorhees, capable de poser des pièges à ours seul. Le spectre, invisible et silencieux, l'infirmière, un tueur difficile à maîtriser, capable de se téléporter à travers les murs, puis vinrent le chasseur, le docteur, la sorcière et bien d'autres. Chacun d'eux a ses propres mécaniques, mais aussi son histoire. Dead by Daylight ne se contente pas d'avoir des personnages jouables, il crée un univers, un lore complet avec ses archives, ses souvenirs, ses tragédies. Mais le vrai coup de génie du studio, c'est d'avoir intégré au fil du temps des icônes du cinéma d'horreur. Des légendes, des figures que tout le monde connaît. Le premier d'entre eux arrive en octobre 2016, Michael Myers, le tueur froid et méthodique d'Halloween. Et là, tout change. Les joueurs se retrouvent face à leur cauchemar d'enfance, puis suivent d'autres monstres mythiques. Freddy Krueger, des Griffes de la Nuit, Leatherface, de Massacre à tronçonneuse, Ghostface, de Scream, Demon Gorgon, de Stranger Things, Pyramid Head, de Silent Hill, et même Albert Wesker et Nemesis, de Resident Evil. Chaque atout est un événement, un nouveau chapitre. Les fans attendent des annonces comme des trailers de films. Et ce qui est remarquable, c'est que ces licences ne sont pas juste pour la déco. Elles sont intégrées dans le gameplay, dans l'ambiance, dans les maps, dans les musiques. Dead by Daylight devient alors une sorte de musée vivant de l'horreur, où chaque partie est un crossover impossible devenu réalité. Mais l'univers du jeu ne s'arrête pas au tueur. Chaque survivant, chaque environnement, chaque objet a une histoire. Et à travers les archives, un mode narratif intégré au jeu, les joueurs peuvent explorer ces récits, débloquer des souvenirs, comprendre les motivations des personnages, et même découvrir l'origine de l'entité, cette force invisible qui régit tout le jeu. Dead by Daylight devient alors bien plus qu'un jeu de cache-cache sanglant. C'est un univers cohérent, complexe, presque tragique, où chaque personnage est à la fois victime et monstre, où la peur est une prison dont on ne sort jamais vraiment. On continue avec la pause musicale suivante, Halloween Theme, de John Carpenter. Sorti en 2016, je le rappelle, Dead by Daylight aurait pu être un phénomène de courte durée. Un simple jeu d'horreur de plus dans une mer de titres indépendants. Mais non, contre toute attente, le jeu s'est maintenu, à évoluer, et surtout à construire une communauté solide, passionnée, et parfois un peu toxique. Commençons par un fait. Dead by Daylight n'est pas un jeu figé. Behavior Interactive a compris dès les premières mises à jour que la clé de sa longévité résidait dans le contenu régulier. Chaque 3 mois environ, un nouveau chapitre voit le jour. Un nouveau tueur, un nouveau survivant, parfois une nouvelle carte. Et toujours de nouveaux atouts. Ce rythme soutenu permet d'entretenir une dynamique. Mais surtout, cela oblige les joueurs à s'adapter constamment. Chaque tueur apporte une nouvelle façon de jouer, chaque perk peut modifier la méta, et chaque changement d'équilibre peut renverser les habitudes. Ce qu'on appelle le méta-gameplay, c'est-à-dire la combinaison optimale d'atouts, de stratégie et de comportement. C'est donc en perpétuelle mutation. Un build considéré comme méta, un mois peut devenir inutile le suivant. C'est un défi permanent, aussi bien pour les joueurs casual que pour les plus investis. Les joueurs casual, c'est ceux qui jouent pas souvent. Et parlons-en des joueurs investis. Car Dead by Daylight a vu émerger une communauté très active. Notamment sur Twitch et YouTube, des créateurs de contenu comme Ozdarva, Trustahan, NotOz ou SpokyLoops ont fait du jeu leur spécialité. Ils décryptent les patchs, proposent des tutoriels, des analyses ou des challenges aussi absurdes qu'hilarants. Mais la communauté, c'est aussi les joueurs quotidiens. Ceux qui se connectent après le boulot, ceux qui passent leur soirée à grinder le rang Iris, ceux qui veulent juste s'amuser ou troller. Et avec cette diversité vient la division. Car soyons honnêtes, Dead by Daylight, c'est aussi un jeu où les frustrations sont fréquentes. Le tunnel, le camping, le matchmaking déséquilibré, la latence, la triche, les sujets de Discord sont nombreux. Les développeurs doivent jongler en permanence entre les attentes contradictoires des joueurs, tueurs et survivants. Malgré tout, Behavior continue d'écouter, d'ajuster, de patcher, parfois avec maladresse, mais toujours avec la volonté de faire durer l'expérience. Il y a même eu tentative d'e-sport amateur, bien que le format asymétrique rende la compétition difficile à équilibrer. Et au cœur de tout ça, ce qui reste, c'est cette communauté vivante, bruyante, engagée. Une communauté qui critique certes, mais qui revient toujours. Parce que même avec ses défauts, Dead by Daylight offre quelque chose d'unique. Une forme de stress partagé, un jeu d'horreur collectif qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On va continuer avec un morceau plus lent, brumeux, avec des nappes lourdes, parfait pour évoquer la complexité de la communauté et la noirceur du jeu. C'est Tame of Silent Hill de Akira Yamaoka. Au-delà de ses mécaniques de jeu, de ses tueurs terrifiants et de la tension constante, Dead by Daylight a fini par devenir un phénomène culturel. Un jeu dont la notoriété dépasse le cercle des fans d'horreur ou de jeux multijoueurs. Commençons par l'évidence. Dead by Daylight est aujourd'hui le jeu d'horreur asymétrique de référence. Il a non seulement inspiré de nombreux autres titres, mais il a aussi écrasé la concurrence, là où des jeux comme Friday the 13, The Game ou The Evolve se sont effondrés avec le temps. DBD a tenu bon, en innovant sans cesse et en gardant son public. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la façon dont le jeu s'est ancré dans la culture populaire. D'un côté, on a une communauté ultra créative, des cosplays incroyablement fidèles, que ce soit pour les tueurs comme la chasseuse ou les survivants comme Fengming, des fanarts parfois drôles, parfois macabres, toujours passionnés. Des histoires inventées autour des personnages, des comics amateurs, des courts-métrages faits par les fans, et même des mèmes omniprésents sur Reddit et Twitter qui moquent les survivants égoïstes ou les tueurs trop campi. De l'autre, il y a le marketing. Savamment orchestré par Behaviour, chaque ajout de licence est un événement mondial. Le trailer Pyramid Head, celui de Sadako de The Ring, ou encore le crossover avec Resident Evil ont fait des millions de vues. Certains fans attendent ces annonces comme d'autres attendent les bandes-annonces de films Marvel. Dead by Daylight est aussi présent sur les plateformes de streaming, non pas comme un simple jeu, mais comme un espace social. Il est devenu un outil de rencontre entre streamers, une base de discussion, un jeu de fond que beaucoup utilisent pour discuter, rire et crier un bon coup, ou tout ça à la fois. Et puis il y a l'impact psychologique, car DBD n'est pas un jeu qui laisse indifférent, il peut frustrer, énerver, faire hurler de rage ou de rire, mais il provoque toujours une réaction viscérale. C'est cette implication émotionnelle qui fait qu'on en parle encore 8 ans après sa sortie. Enfin, en termes de chiffres, c'est un succès massif. Plus de 50 millions de joueurs à travers le monde, un jeu traduit dans plus de 20 langues, disponible sur PC, console, Switch et mobile, un projet film live-action en préparation produit par Blumhouse, le studio derrière Get Out et The Invisible Man. Dead by Daylight a donc dépassé son simple statut de jeu vidéo pour devenir une expérience culturelle, une vitrine du genre horrifique moderne et un rendez-vous régulier pour des millions de joueurs. On continue avec The Entity, une OST de Dead by Daylight, un thème profond, presque solennel, pour accompagner la dimension symbolique du jeu. Dead by Daylight n'est pas un simple jeu d'horreur, c'est un laboratoire de peur, une machine à tension, une expérience collective où les émotions sont brutes, sans filtre. Depuis 2016, il réussit là où beaucoup ont échoué. Tenir dans la durée, fidéliser une communauté, évoluer sans se trahir. Il est devenu un miroir déformant de nos peurs les plus primaires. La traque, la solitude, la trahison, l'abandon. Mais c'est aussi un jeu de liens. Derrière les cris et les courses-poursuites, il y a des moments de solidarité, des victoires arrachées à la dernière seconde, des sacrifices inattendus. Un survivant qui se jette sous les griffes d'un tueur pour sauver un inconnu. Un tueur qui épargne, juste une fois, un clin d'œil, un salut, une émote, et le souvenir d'une partie qui, l'espace d'un instant, a été plus qu'un jeu. Dead by Daylight, c'est l'histoire d'un studio indépendant qui a transformé une idée simple en une œuvre vivante. Une œuvre encore imparfaite, parfois frustrante, mais toujours habitée. Et c'est aussi une promesse. Tant qu'il y aura des joueurs pour fuir et d'autres pour les traquer, tant que la brume s'élèvera, l'histoire ne sera jamais terminée. C'était l'histoire du jeu vidéo, consacré aujourd'hui à Dead by Daylight. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Radio Dynamo pour un nouveau voyage au cœur d'un autre jeu. Entre pixels, légendes et frissons. Je vous laisse avec le thème de Scream.